Merci à vous tous et toutes d'être là. Donc, je vais bel et bien parler aujourd'hui de ce petit livre que je vais pour l'instant mettre de côté, juste pour vous dire, bon, qu'est-ce qui m'a amené à en parler dans le cadre de ce colloque. Je travaille depuis quelques années à temps perdu, ce que j'ai pas beaucoup, mais quand même de temps en temps, sur ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon la demeure ou le véhicule médiatique ou formel des narrateurs non fiables, bien souvent, soit ce que j'appelle le faux document. Le faux document pour lequel j'ai donné souvent, je pense que j'avais une définition, c'est la mienne, donc je vais me citer par cœur, mais donc était cette idée donc d'un texte de fiction qui se donnait les oripeaux, donc, du document historique ou factuel, qui se donnait de façon formelle ou éditoriale, je le précise souvent, c'est-à-dire que dépendamment des époques, hein, donc on peut faire recouvrir par le terme un large spectre, c'est-à-dire qu'on va avoir le canular pur et simple, donc le faux document qui se fait bel et bien passer, y compris dans le paratexte, y compris dans sa réception sociale, pour une chose qu'il n'est pas, et on va avoir cette forme plutôt formelle, plus moderne, plus contemporaine, qui apparaît, bon, on pense à Pilfire de Nabokov, par exemple, donc cette forme littéraire, donc il va emprunter le format du journal, le format épistolaire, par exemple, l'édition critique parasitée par la fiction. Donc, toutes ces stratégies, pour moi, où la fiction fait semblant ou renonce à ce qui pourrait être ses lieux propres, comme le récit à la troisième personne, le narrateur omniscient, bon, etc. Une des choses qui m'a toujours intéressé là-dedans, d'une certaine façon, c'était de me lancer à moi-même et à quelques-uns de mes maîtres à penser quant aux questions de la fiction, une balle courbe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir des conceptions de John Searle en 82, donc sur la logique du discours de fiction, du discours fictionnel, à travers Genette aussi, à travers Schaeffer en 99, il y a toujours l'idée de donner ou de délimiter pour la fiction un territoire qui est essentiellement pragmatique. Quand je cite Jean-Marie Schaeffer là-dessus, « Contrairement à une idée reçue, une fiction n'est pas obligée de se dénoncer comme fiction. En revanche, elle doit être annoncée comme fiction, la fonction de cette annonce étant d'instituer le cadre pragmatique qui délimite l'espace de jeu à l'intérieur duquel le simulacre peut opérer. » Et donc, dans le même livre, « Pourquoi la fiction ?», Schaeffer va ajouter que les exemples d'œuvres qui vont étendre la logique mimétique jusqu'au cadre pragmatique qui institue l'espace du jeu fictionnel sont pour lui relativement rares, relativement marginaux. Ce que je conteste pas, ce que je conteste, c'est que du fait qu'il soit rare et marginaux, qu'il n'ait rien à nous dire sur ce qu'est profondément la fiction et qu'il ne soit pas en soi assez important. Donc, pour moi, ma réserve face à l'idée du cadre pragmatique, c'est que pour moi, elle donne un grand privilège épistémique à une forme de la fiction qui demeure quand même transitoire, soit le roman à partir du 19e, où oui, donc ça va, tout est clair, c'est un roman, tout est beau, ça va, alors qu'on sait très bien que dans l'adoption progressive des régies, entre autres de l'imprimé, il y a eu beaucoup de moments, beaucoup d'œuvres où c'était pas aussi clair que ça pour toutes sortes de raisons. Donc, un des derniers exemples de ça, par exemple, c'est les aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe, qui a bel et bien été publié à l'époque comme le récit d'un marin nommé Arthur Gordon Pym de Nantucket, évidemment, ce qui a été énormément reproché à Edgar Allan Poe à l'époque. Et ce qui est mon problème comme théoricien, surtout de la lecture, en voulant pousser cette réflexion-là et me poser la question justement de quelle est leur importance et de qu'est-ce que ces dispositifs-là, ces œuvres-là nous disent sur la fiction, c'est que c'est très, très difficile à observer à hauteur de lecteur, à hauteur de lecture. Tu nous as fait ce matin la grâce d'un vrai canular, c'est agréable, on peut le voir agir sur soi, mais sinon, bon, ben, si je reprends l'exemple justement d'Arthur Gordon Pym, ça serait la même chose par exemple avec les aventures de Robinson Crusoe, dont c'était le cas également. C'est très très difficile de me mettre au diapason d'un lecteur de l'époque, sachant évidemment tout ce que je sais et tout ce qu'on sait culturellement aujourd'hui sur ces textes-là. Et donc, ce qui m'a amené donc aujourd'hui à parler de Récit d'un avocat d'Antoine Bréas, c'est que j'ai eu l'immense plaisir en lisant ce livre-là de me faire jouer un tour que je ne m'étais pas fait jouer depuis très très longtemps par une œuvre de fiction, soit de me faire prendre des vessies pour des lanternes, donc dans le cas qui nous occupe, des vessies référentiels, des vessies fictionnelles pour des lanternes référentielles. Et donc, je peux tester, hein, donc sans imaginer un lecteur naïf, c'est moi-même le lecteur relativement naïf dans ce cas-là. Donc, « Récit d'un avocat » d'Antoine Bréa, cinquième livre d'Antoine Bréa publié au Cartanier. Et ben, je vais parler de texte pour l'instant parce que, bon, la question même de son appartenance générique est problématique. Donc, un texte qui relate, en fait, l'intervention d'un narrateur qui est, bon, évidemment, juriste dans un cas historique, bon, assez documenté, donc d'un assassin qui était au départ donc un réfugié, quelqu'un qui était en France d'origine kurde, qui a été impliqué dans une sordide affaire de meurtre. La première chose que je voudrais dire là-dessus, donc en faisant un peu l'anatomie d'une méprise, c'est d'analyser, donc de regarder un peu comment le transfert a pu se faire et comment, dans un premier temps, j'ai pu lire ce livre-là en étant convaincu qu'il s'agissait d'un récit factuel. Donc, première chose, commençons par le commencement. Je suis presque en simulation de lecteur en librairie, mais la quatrième de couverture. En 1996, deux immigrants kurdes sont condamnés par la cour d'assises du Jura à 30 années de réclusion criminelle pour l'un et à la même peine à perpétuité pour l'autre, en répression de faits de viol aggravé, assassinat en concomitance, torture et actes de barbarie commis au préjudice de leurs victimes. Leur victime, c'était Annie B., 25 ans, aide-soignante originaire d'Alsace, violée, torturée, brûlée, vive dans la nuit du 8 au 9 juillet 1994. C'est à cette affaire que va se trouver mêlé le narrateur presque à son corps défendant. Dans son rôle dans la suite des faits, il livre ici le scrupuleux détail. On ajoute, en biographie d'auteur, « Antoine Bréa, dans la vie et sous un autre nom, est avocat. Dans ce récit aux airs de thriller judiciaire d'anticipation ou de série noire, peu de choses sont entièrement imaginaires. » Donc, vous voyez un peu comment se place ce que les théoriciens de la fiction appellent un « Jedi mind trick », tout à coup, quelque chose nous est passé devant les yeux avec une espèce de fausse apparence qui se poursuit dans le titre même. Si on se fie à la collection du Cartanier, à la collection QR, on est souvent dans une collection qui se passe de mentions génériques, mais il va y en avoir pour quelques titres, parce que c'est une collection que le Cartanier fait paraître bon, autant de l'essai que de la poésie, du court roman, du théâtre, bon, etc. Donc, c'est un peu une collection fourre-tout jusqu'à un certain point. Et ici, bien sûr, le titre étant « Récit d'un avocat », la mention générique disparaît parce qu'elle est intégrée à même le titre. Donc, on est à des niveaux paratextuels un peu glissants et qui m'ont servi, je m'en rends compte aujourd'hui en faisant mon examen de conscience, de rampe de lancement vers ma première fausse inférence qui va se poursuivre ici. Donc, je vous lis le premier paragraphe qui est court. De la lecture de L'Auve le pur de l'écrivain Richard Millet, je conserve peu de souvenirs. Celui d'un titre assez joli, mais qui n'est pas de l'auteur, enfin pas tout à fait, puisqu'il est imité d'Hervé Guibert. Celui d'une forte colique du narrateur au début, celui d'un roman sociologique encombré d'idéologie, de simplification, celui d'un malaise qui m'a pris à voir la littérature s'emparer des tourments de victimes bien concrètes de notre monde pour en faire l'argument d'antipathie raciste et de peur maladive. Le nom des femmes assassinées par Guy Georges, ce mulâtre, entre guillemets, récité d'une voix claire par l'un des personnages. D'autres faits divers terribles arrachés aux journaux agités à tout propos dans le livre. Marion, l'enfant disparu d'Angoulême, n'était-elle pas d'ailleurs d'Agen? Annie B., petite aide-soignante, violée, torturée puis brûlée par deux Turcs dans le Jura à l'été 1994. Il n'entre pas dans ma spécialité de sonder plus loin, s'il est admissible, au plan de l'art, de se saisir d'éléments d'une réalité si lamentable pour servir la peinture d'une œuvre de fiction. Mais il est, je crois, de ma compétence de dire quelque chose des deux Turcs d'Annie B., tels qu'ils sont essentialisés par l'auteur, puisque j'ai été de l'un d'eux l'avocat. Vous voyez que, bon, la table est mise à partir de là et que ma première inférence fausse, et je suis désolé parce que ma communication n'est qu'un long spoiler de ce livre-là qui ne pourra jamais agir sur vous, mais là, il fallait bien que j'en parle. Je ne pouvais pas ménager tout ça. Donc, ma première inférence fausse, c'est bien sûr cette idée que Antoine Bréa, sous le vrai nom qu'il tait et sous lequel il exerce comme avocat, et le narrateur ne sont qu'une seule et même entité, ce qui se révélera ultimement faux, ou en tout cas facilement remis en question. Donc, partant de là, je me suis fourvoyé. Je me suis fourvoyé, à mon avis, donc pas seulement à cause de dispositifs spécifiquement textuels, mais encore dans cette optique pragmatique qu'on évoquait, à cause d'un contexte culturel également. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette... il y a l'absence de mention générique, mais même si une mention générique avait été présente, on vit, je pense, quand même, dans certains pans de notre vie littéraire, un affaiblissement du paradigme fictionnel, pour toutes sortes de raisons, et donc je ne veux pas dire affaiblissement de la qualité de la production, mais affaiblissement donc de l'étiquette comme telle, donc dans l'inadéquation progressive du roman avec une catégorie purement fictionnelle, on admet de plus en plus que le roman soit non fictionnel, dans l'hybridation bien sûr opérée à qui mieux par l'autofiction, et donc... Déjà, dans cette espèce de climat-là, et je pense que c'est la posture de lecture que j'ai adoptée d'abord, j'étais dans cette idée que le roman, ici, qui n'est pas nommé, l'idée même d'une fiction, d'un éventuel récit de fiction, était vraiment une mention, une prudence, comme elle l'est souvent, essentiellement de nature juridique, davantage qu'ontologique. On n'est pas en train de dire qu'il y a ici une fiction, on est en train de dire, bon, les noms sont changés ou les patronymes, dans ce cas-là, sont réduits à leur initiale. On est en train de dire, bon, ceci est un récit de fiction, comme on le dit au début des films, mais plutôt, comme on le disait dans les vieux épisodes de Kojak, tout est vrai, mais par souci des victimes et de la délicatesse de la situation, les noms ont été changés. Donc, on est dans quelque chose qui est plutôt une fausse fiction, volontairement un roman à clé. Et pendant très, très longtemps, c'est cette lecture-là qui m'a porté. Donc, ce qui arrive à notre narrateur, c'est que 16 ans, donc j'ai résumé un peu l'affaire du meurtre. Donc, on lui demande, au moment où il commence à exercer comme avocat, pour faire court, donc, d'intervenir, de prendre la défense d'Ahmet A., donc l'un des accusés, celui qui n'a pas reçu une peine de prison à perpétuité, et qui arrive au moment de sa peine où il va être éligible à la libération conditionnelle, ce qui est un problème, pour lui en tout cas, et pour l'humanité du traitement des prisonniers là-dedans, c'est-à-dire que comme il arrive à une possibilité de libération conditionnelle, il arrive devant une situation où si on le libère, on va le renvoyer immédiatement en Turquie, où pour toutes sortes de raisons, il est promis à une mort certaine. Donc il est arrivé toutes sortes de choses dans l'intervalle entre le meurtre et le moment où le narrateur entre en scène, mais grosso modo, il y a une histoire de vendetta, il y a une histoire de vengeance familiale. En fait, si Ahmet a participé à ce crime-là, c'était parce qu'il avait une espèce de dette à la fois morale et financière envers la famille, le clan, littéralement K, qu'on appelle seulement K. Bon, on protège les vrais noms. Et donc, il a été mêlé à ce crime-là et on lui a demandé après de porter le chapeau, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, tout le monde lui en veut et on sait que dans son pays, donc cette famille-là est encore très, très bien représentée dans son patelin, qu'il ne peut pas rentrer là-bas sans mettre sa propre famille en danger et probablement sa vie à lui-même en danger. Le problème, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas faire, ce serait toutes des raisons légitimes de faire une demande d'asile, mais on ne peut pas, dans la jurisprudence française, comme dans la plupart des jurisprudences, je pense, faire une demande d'asile si on s'est rendu responsable d'un crime grave, et spécialement dans le territoire visé. Donc, dans son cas, c'est impossible en tant que meurtrier aggravé de demander l'asile. Et donc, on voit dans une bonne partie du roman le narrateur avocat essayer de se débattre avec cette espèce d'impossibilité-là, essayer de venir en aide à Ahmet en vain. Et ce qui va finir par arriver, en fait, c'est que, avec beaucoup d'ironie, on va renvoyer Ahmet dans son pays après le dernier appel du narrateur, qui était pourtant un succès, sauf que c'est un succès qui ne méritait pas qu'on ralentisse la peine. Donc, on le renvoie et deux semaines plus tard, il reçoit la décision de l'appel que finalement l'expulsion d'Ahmet était illégale et qu'on aurait dû le garder, mais maintenant Ahmet, c'est plus le problème de la République. Donc, on se rend jusque-là. Dans un récit, donc, on est beaucoup dans les technicalités, on est aussi devant une espèce d'autofiction, de la façon dont je le lisais en première lecture, dans une autofiction tournée essentiellement vers l'autre et vers un cas, à la fois juridique, à la fois qui dit beaucoup de choses sur le climat politique actuel, évidemment, et très, très modeste par rapport à l'intimité et à la personnalité même du narrateur. Ce qui va se passer à partir du chapitre 26, donc où on a cet achèvement-là, ce premier niveau d'achèvement, c'est qu'il va y avoir un glissement. Et là, je suis toujours un peu dans ma première lecture là-dessus. On va glisser tout à coup dans des figures qui sont plus spécifiquement et plus spectaculairement littéraires et manifestement fictionnelles. Donc, la figure du double, la mise en doute, la folie, etc. Note ici. Excusez, j'ai pas eu le temps d'écrire ma communication, donc je l'écris en la donnant, ce qui est toujours un peu fastidieux, mais on va s'en sortir. Donc, ce qui est particulier, déjà dans la figure du double et dans ce glissement vers ma lecture de type auto-fictionnel à une lecture de type juste flabbergasté, qu'est-ce qu'on est en train de me faire, qu'est-ce qui m'arrive, moment. Donc, il va y avoir cette espèce de glissement, donc je disais, les doubles. Premièrement, après l'expulsion de Hamet, il va y avoir un glissement vers quelque chose vraiment plus de l'ordre de l'espionnage, donc qu'on évoquait d'ailleurs, on voit comment le tour est habile dans la quatrième de couverture, donc l'idée du thriller, c'est-à-dire que le narrateur va rencontrer une traductrice kurde, Senaz, qui va l'embarquer tranquillement, pas vite, dans des affaires de complot pour essayer soit d'aider Hamet, de le venger, etc. Elle-même étant une espèce d'agente infiltrée du parti travailliste kurde, donc du PKK, qui là-bas s'oppose à la fois au gouvernement turc musulman et à islamiste, pardon, et à, bien sûr, Daesh, dans les endroits où Daesh fait des misères aux Kurdes, ben donc partout. Donc, on glisse comme ça d'un personnage à un autre. Donc, le premier double qui apparaît pour moi, c'est donc un deuxième personnage féminin dans le livre, après Mademoiselle G, qui est apparue au début du livre. Et là, je veux faire une comparaison entre deux situations, déjà, parce que c'est un peu, ça a été le premier poteau rose pour moi. Donc, plus tôt dans le roman, il y a l'apparition d'un premier personnage féminin, qui est Mademoiselle G, qui travaille, elle aussi, au tribunal, avec qui le narrateur va avoir une rencontre, va avoir à collaborer donc sur le cas d'Hamet. Et il va avoir une rencontre qui va devenir un peu plus personnelle. Un soir, en revenant de la province vers Paris, le narrateur va rater son train et rencontrer au petit pub local Mademoiselle G. Donc, de fil en aiguille, ils vont prendre quelques verres et discuter du cas d'Hamet. Et ça va se terminer comme suit, bon, dans un passage assez réussi. Donc, je cite, « Pour le reste, il n'est pas difficile de deviner que j'ai raté le dernier train pour Paris. Au moment de sortir, j'en ai fait part à Irène et j'ai marmonné quelque chose à propos de la nécessité de trouver un hôtel pour la nuit. Elle a parlé de son appartement, du canapé-lit au salon. Nous sommes grimpés dans sa voiture. Elle vivait à cinq ou six rues de là. Une supérette était toujours ouverte où elle s'est arrêtée pour prendre de quoi dîner et que j'achète une brosse à dents. En passant par le rayon dédié à la pharmacie, elle m'a examiné et déclaré qu'il fallait que je décide si oui ou non on aurait besoin de préservatifs. » Donc, il y a quelque chose qui sonne, en tout cas, si ce n'est pas du tout romantique, éminemment vrai dans la scène et qui est cette rencontre, bon, sur laquelle on va rester un temps. Quand il fait la rencontre de Senaz, donc, qui va l'attirer dans ce complot, on va avoir en revanche ce genre de description. Donc, elle le rencontre et c'est presque, bon, on va le voir presque une espèce de d'hypnose. Elle faisait l'essentiel de la conversation, j'écoutais comme anesthésié, j'acquiesçais par endroits, j'avais peine à me rassembler, à exhiber à son exemple ma préoccupation, mon effroi. Je voyais bouger ses lèvres très roses et une émotion me brûlait sans rapport avec ses propos. Les termes généraux s'étiolant, Senaz en est venu aux enregistrements vidéo. Elle a dit « Tu sais ton Hamet dans les images, c'est étonnant ce qu'il te ressemble. » Je l'ai observé un peu décontenancé, ne pouvant définir si elle plaisantait ou non. Elle a souri, mais a fait si sans mentir il y a un air. Comme nous évoquions en présent le second film, on a décidé de le visionner ensemble. Elle s'est installée à ma gauche, sur le canapé. Elle a ouvert une tablette sur ses genoux. Je respirais l'odeur soignée, presque sexuelle, de ses cheveux. J'inhalais muettement, content qu'elle ne remarque rien. Le film est passé ainsi qu'une brume sur l'écran où je m'attachais à river les yeux. Et un peu plus loin, à cette minute, nos yeux se sont trouvés. Les siens étaient très noirs, brillant de larmes contenues. Elle a touché mon bras, prononcé mon nom. Je n'ai plus respiré. J'ai pensé l'embrasser, mais j'étais sans force, sans volonté, sans courage. elle a dit, il y a une faveur que je dois te demander. Donc, on voit déjà la différence, pour moi, assez perceptible au niveau, bon, du côté très, très banal de la première rencontre, banal et très incarné, avec tout à coup cette description déjà du personnage féminin qui est orientalisante, exotisante, voire tokenisante, bon, les cheveux, l'odeur sexuelle des cheveux, ça se veut joli, c'est presque dégoûtant, finalement. Bref, passons. Et bien sûr, toute cette espèce de climat où tout à coup on est attiré vers une espèce de séduction un peu matahari sur les bords. Et bien sûr, ce qui va être demandé par Shehnaz au narrateur, c'est de participer avec elle. Donc, elle veut régler ses comptes au nom d'Ahmet à la famille K et donc aller tuer l'autre, aller faciliter l'assassinat de l'autre coupable en prison, donc Enver K, qui est toujours, ben lui, qui est là à perpétuité. Donc, le narrateur va accepter, et là, c'est le point tournant, où même si on est le plus naïf des lecteurs, on va se rendre compte par la force des choses qu'il a bel et bien différence entre les deux instances, soit l'auteur et le narrateur dans ce cas-là, c'est qu'il va accepter d'emmener en prison, d'introduire en prison un couteau indétectable, un couteau en céramique dont va se servir quelqu'un pour tuer Enver K en prison. Donc, il se rend coupable de concomitant, bon, donc de complicité de meurtre. Et bien sûr, on arrive à ce moment dans le roman où on comprend qu'on est en train de lire un roman et on se dit, bien sûr, si Antoine Bréa, oui, c'est bon, était en train de faire ça, il n'aurait pas pu, évidemment, il n'aurait pas pu, et mon éditeur, qui est le même, ne l'aurait pas laissé sûrement se dénoncer comme ça en public dans un livre publié dans sa maison d'édition et qui conduirait au moins ces deux-là et presque nous tous en prison. Donc, on est vraiment dans le moment où la dislocation totale se fait. Et donc, en deuxième lecture, tu me donnes ça, je vais peut-être prendre 7-8. Je vais essayer. 6, c'est bon. Donc, je suis retourné en deuxième lecture à partir du moment où j'étais vraiment dans cette trappe qui s'ouvre sur les pieds en disant, bon, je vais me trouver une raison pour relire ce livre-là. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Et je vais aller vérifier mon intuition première qui était d'aller jouer sur ce que des théoriciens de la fiction comme Kit Hamburger et Dorit Cohn appelaient les lieux propres de la fiction, ou le propre de la fiction, pour citer le titre de l'ouvrage de Dorit Cohn de 2001. Donc, de se demander si, une fois le cadre pragmatique dynamité, on ne pouvait pas trouver des motifs stylistiques et formels à l'intérieur même du texte pour essayer de se dépêtrer de ça ou essayer de confirmer mon hypothèse première qui était d'une certaine façon de dire même s'il y a du faux dans ce texte-là, j'ai l'impression qu'il y a du vrai. Et le problème auquel je me suis heurté assez rapidement, c'est que et je l'ai rencontré dans un texte de Genette, donc dans Fait et Diction, Genette, dans son chapitre qui s'intitule « Récit fictionnel, récit factuel », souligne justement que le problème avec la notion d'indice de fictionnalité ou d'indice fictionnel, tout comme avec celle d'indice de factualité, c'est que les deux sont éminemment réversibles. On en parlait un peu hier, Simon et moi, et je me suis rendu compte en revenant dans le roman que finalement, toutes les marques que j'avais identifiées préalablement comme des marques de factualité pouvaient se lire dans l'optique où j'étais désormais placé, comme au contraire des indices de fictionnalité. Et donc, j'en donne un indice, j'en donne deux très rapidement. Donc, au tout début, je vous disais, bon, justement, une des premières stratégies qui prend tout le temps, c'est de réduire les patronymes à leur initiale. Ce qui est à la fois, bon, on le voit tout de suite, pour moi, c'était déjà une question, redonner une fraîcheur à un vieux dispositif, parce que appeler quelqu'un, bon, la marquise de C, ça fait rien qui fait plus Balzac que ça. De toute façon, on est dans un dispositif assez classique, mais qui pour moi retrouvait une fraîcheur auto-fictionnelle d'une certaine façon et à la limite juridique. Une espèce de prudence, on fait semblant de ne pas pouvoir nommer les gens. Et je tombe sur un passage comme celui-là, par exemple, au tout début. « Pour l'anecdote, le magistrat qui a présidé leur procès, celui d'Ahmet et d'Enver, et prononcé l'arrêt, un certain C, bien connu des confrères et de la population pénale en Franche-Comté du fait de ses sévérités, a lui-même été poursuivi et condamné en 2001 pour crime de faux et écriture publique. Ce que je dis est vrai, il est aisé de le vérifier. » Vous voyez comment, exactement dans la même dans le même passage, il y a cette idée, tout à coup, on a le magistrat qui n'est pas nommé, le juge qui n'est pas nommé, comme si on voulait le protéger. En même temps, on décrit très, très bien son crime et on dit, on donne presque le lien Google pour aller vite. Donc, c'est aisé de le vérifier. Donc, il y a quelque chose de complètement paradoxal et ces paradoxes-là sont extrêmement nombreux dans le roman. Autre chose que je remarquais en parlant avec Simon, c'est la question aussi du fait, l'espèce de prudence que le narrateur a tout le temps, une espèce de prudence interprétative, une prudence de conjecture aussi. Donc, il s'aventure à rien, il a toujours tendance à aller vers des sources secondaires, littéraires, mais surtout juridiques, pour en arriver à du concret. Et lui dit, bon, je n'hasarde pas d'hypothèses, je fais attention à ce que je dis, etc., etc., et je renvoie surtout à mes sources. Et bien souvent, on va se rendre compte, comme dans ce passage-là, que la mention des sources, finalement, peut servir deux choses, donc à la fois de nous faire croire qu'on est en train de lire effectivement le récit d'un avocat du titre, ou à l'inverse, de nous montrer comment la chose a été fabriquée. Donc, je cite ce passage de la première rencontre avec Ahmet. « J'ai conscience du caractère fastidieux de ces précisions livrées en masse et déplore de ne savoir les rapporter en termes moins pénibles au lecteur. Il n'est pas impossible qu'alors, tandis que je n'épargnais rien non plus à Ahmet A, j'ai dissimulé pour partie mon inexpérience pratique de ces choses derrière leur exposition théorique, méticuleuse, rébarbative. Je comprenais, en tout cas, en même temps que je m'expliquais, qu'à ses yeux, je devais paraître très au fait de ce que je représentais. » Donc, on voit exactement le passage où deux choses sont... Donc, on est toujours sur le double sens d'une certaine façon. Ça peut être une façon d'analyser son propre discours et en même temps de nous dire, encore sur le mode du Jedi Mind Trick, regardez, je suis presque en train de nommer les pages Wikipédia qui ont servi à vous faire à croire que j'étais un avocat. Donc, on se retrouve bel et bien confronté à cette espèce de réversibilité totale des indices de la fiction et à ce qui donne son titre à mon exposé, c'est-à-dire d'une certaine façon, en cherchant le propre de la fiction ou le lieu propre de la fiction dans ce texte-là, j'en arrive à ce jeu de mots, si on veut, juridique, au non-lieu de la fiction, à cette espèce d'efficacité virale, parasitaire, nomade, nommons-la comme on veut, de la fiction qui va, dans ce texte-là, un peu infecter tout. Et donc, juste pour conclure brièvement là-dessus, donc le deuxième élément de contexte qui, pour moi, était important là-dessus, c'est que, bien sûr, j'ai lu ce texte-là au moment où l'expression « ère post-factuelle » devenait la chose galvaudée, que l'on connaît, oui, virale, et donc désormais galvaudée, que l'on connaît. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup fasciné. Je n'ai pas encore mis le doigt exactement là-dessus. C'est-à-dire que même à partir du moment où la fiction se répandait comme traînée de poudre dans tout cet ouvrage-là et rendait tout absolument digne de soupçon, l'espèce de pertinence, la lumière qui était jetée dans ce texte-là sur la radicalisation, le sort des réfugiés, etc., demeurait tout à fait actuelle. Et demeurait tout à fait actuelle peut-être justement parce que, et c'est une partie de ma réponse à ma première question, pourquoi jouer si radicalement du jeu de la fiction? Parce que finalement, l'ère post-factuelle, contrairement à ce qu'on a tendance à dire des fois peut-être un peu naïvement, ce n'est pas un triomphe de la fiction, surtout pas, mais une espèce d'échec d'une compétence culturelle et lecturale qui est celle de la fiction, soit celle du suspens devant un discours, devant un texte, etc., d'un suspens maintenu et d'une interrogation critique. Et donc, pour moi, l'espèce de jeu très, très radical que joue Antoine Bréa dans ce texte-là, c'est un peu, d'une certaine façon, une espèce d'appel assez vibrant pour moi à la réactualisation de cette compétence-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, moi, en le recevant comme une claque au visage, j'avais ce côté-là. Bon, bien sûr, les gens qui partagent des fausses nouvelles pour Trump ne le liront peut-être pas, mais pour moi, c'était une très, très belle réponse de la fiction à l'ère post-factuelle et qui actualisait très, très bien son très, très bel épigraphe. Donc, le proverbe kurde qui dit « Si la nuit devient noire, fais-toi plus noir encore ». Et je pense que c'est ce que la fiction fait à travers ce véhicule-là. Merci beaucoup. Thank you.